Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Plus de 15 millions de téléspectateurs hier pour suivre le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un duel qui a duré 2h50 minutes. L'Info C'est clair est intitulé Débat. Qui a gagné ? Nos invités, Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Libération qui titre ce matin « Pouvoir d'achat, Le Pen dans les cordes ». Et puis je rappelle que vous êtes l'auteur d'une trilogie de polars sur le conflit israélo-palestinien. « Balagan, Adieu Jérusalem » et « Les Lumières de Tel Aviv », c'est aux éditions Rivage Noir. Véronique Reissoult, vous êtes présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion en ligne. Et vous nous parlerez de comment les téléspectateurs ont suivi et ont réagi face à pendant ce débat. Et enfin, Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévisions. Alors vous, bonjour, vous nous donnerez les coulisses parce que vous étiez
on
hier soir
sur place,
sur le plateau, donc à la Plaine Saint-Denis, vous nous raconterez. D'abord, je vous propose, avant d'entrer dans le vif, un retour sur les moments forts de ce débat hier soir, moment fort rassemblé par Chloé Barbeau.
Le débat débute avec un faux départ.
Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple.
Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peine commencé, vous interrompre ?
Marine Le Pen commence à parler pendant le générique. Les premières minutes sont hésitantes, puis soudainement, le ton monte à propos de la hausse des salaires.
On voit bien que la mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français.
Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires.
Mais vous n'administrez pas les primes non plus, monsieur Macron.
Emmanuel Macron, accusé d'avoir creusé la dette pendant la crise du Covid, défend le quoi qu'il en coûte.
Mais que les restaurateurs, que les artisans, que les commerçants, que les petits industriels qui nous écoutent aujourd'hui, mais viennent témoigner, viennent vous parler et vous dire qui les a aidés pendant la crise Covid.
Attaquée pour son attitude vis-à-vis de la Russie, Marine Le Pen, mieux préparée qu'en 2017, se défend.
D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie.
Au moment de clore les échanges, les candidats ont salué la sérénité du débat.
Alors, Alexandra Schwarzbrod, l'émission s'intitule « Qui a gagné ?». Qu'avez-vous pensé de ce débat, 2h50.
Il y a eu des moments assez pénibles. Le début a été très dur, je trouve, parce qu'on sentait qu'elle ne maîtrisait pas, que Marine Le Pen ne maîtrisait pas ses dossiers. Et pourtant, donc ça démarrait plutôt à son avantage, puisque c'était sur le pouvoir d'achat, qui est la mesure phare qu'elle a défendue pendant toute sa campagne, et qui est d'ailleurs la mesure grâce à laquelle elle était là hier soir. Hein, c'est ça qui lui a fait gagner des points dans l'électorat, auprès de ses électeurs, de ses sympathisants plutôt, et elle ne maîtrisait pas le dossier. Emmanuel Macron l'a un peu noyé sous les chiffres, et on voyait bien qu'elle perdait pied, on sentait à son regard qu'elle flottait. Cela dit, lui, je l'ai trouvé quand même, malheureusement, toujours très arrogant, assez méprisant. Il avait une façon de la regarder, de se tenir, qui pouvait être considérée comme très arrogante. Donc l'ensemble était un peu pénible, j'ai trouvé. Bien évidemment, lui maîtrise les dossiers.
C'est exactement le point faible de chacun. La compétence chez Marine Le Pen, l'arrogance chez Emmanuel Macron. C'est...
La compétence, vous avez dit ?
Non,
l'incompétence chez Marine Le Pen.
La compétence chez Emmanuel Macron et le...
Oui, l'incompétence chez Marine Le Pen, l'arrogance chez Emmanuel Macron. C'est vrai que les deux, finalement, ça a accentué ce travers chez chacun d'eux. Et du coup, ça a donné un débat qui était... pas très agréable à regarder, j'ai trouvé. Il n'y avait pas vraiment de souffle. C'est-à-dire que chacun était un peu... Elle était très sur la défensive. Lui, il était très à l'offensive. Je pense qu'il s'était préparé à être offensif dès le début pour ne pas lui laisser un moment de répit. Et de fait, On l'a senti parfois poussée dans ses retranchements, dans les cordes, comme on a titré à la une de Libé pour la première édition, et notamment sur le pouvoir d'achat, ce qui est quand même hallucinant, parce qu'elle aurait dû normalement...
Oui, ça commençait avec son thème de prédilection.
Voilà, et un débat qui démarre mal, c'est difficile après de remonter la pente.
Guillaume Daré, moi j'ai senti quand même beaucoup d'appréhension dans les premières minutes à rentrer dans le match, comme si l'un et l'autre quand même avaient peur de ce qui allait se passer ou de ce qui aurait pu se passer pendant ces 2h50. Vous y étiez, vous, juste avant. Quelle était l'ambiance? Est-ce qu'il y avait une tension? On ne les imagine pas très décontractés, non?
Alors, Emmanuel Macron est arrivé plus détendu que Marine Le Pen. Les deux nous ont dit un mot à leur arrivée sur le tapis rouge. Devant les caméras, tous les deux avaient l'air détendus. Marine Le Pen était un peu plus tendue quand elle est venue repérer le plateau. Après, ce que vous dites, Axel, je trouve que c'est vrai pour Marine Le Pen sur le début du débat. Je suis pas d'accord avec vous sur le problème de la compétence. Je trouve que sur la question du pouvoir d'achat, elle dit c'est pas avec une prime, monsieur le président, qu'on fait augmenter les salaires. Lui dit les salaires, c'est le plus important, mais je mettrai quand même une prime. Je trouve que moi, c'est le style qui m'a le plus marqué chez Marine Le Pen hier. On a été étonnés. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose derrière votre écran quand on était sur place à quelques mètres du plateau, par le fait qu'elle ne l'attaque quasiment pas, et qu'elle soit effectivement dans une posture tellement défensive et avec l'intention d'apparaître le moins agressif possible par rapport à il y a 5 ans, qu'elle ne s'est même pas saisie des opportunités de s'en prendre parfois à son bilan, de s'en prendre à certains de ses échecs, et que c'est effectivement elle qui s'est retrouvée à se justifier finalement sur son action politique ces 5 dernières années, sur ses votes ces 5 dernières années. Alors c'est là où Emmanuel Macron a été habile de lui dire « Mais qu'est-ce que vous avez voté sur tel dossier? Qu'est-ce que vous avez voté sur tel texte ?» Et c'est finalement lui qui apparaissait presque comme le challenger qui devait marquer des points, qui était effectivement combatif, parfois souvent un peu arrogant, plus dans les mots, par la tenue qu'il avait face à elle, par son regard, par cet aspect-là. Et je pense qu'elle est venue, me disait ce matin un ministre, finalement en filant la métaphore sportive, vous savez, comme au tennis, elle est venue en se disant « Faut pas que je mette la balle dans la bâche. Faut pas que la balle, elle sorte du court. » Donc elle a renvoyé la balle, mais sans chercher à monter à la volée pour marquer le point. C'est
elle
un peu ce qu'on a ressenti.
Avec ce retard sur les sondages, vous auriez imaginé qu'elle monte un peu plus au filet, comme on dit, pour mettre des points.
En tout cas, qu'elle soit un peu plus à l'offensive dans un débat où, effectivement, on a senti que, finalement, ce qui était le plus important pour elle, presque, c'était de ne pas faire de sortie de route.
Alors, Véronique Reiss-Soult, débat différent de 2017, il y a eu moins d'agressivité, ça a fait beaucoup... Déjà, vous voyez pendant le sujet, son tweet là, qu'elle montre en 2014, vous dites ça, déjà, ça a fait beaucoup réagir.
Déjà, en fait, l'une des questions qu'on avait, c'était quel serait le même, vous savez, après chaque débat sur Internet, les gens choisissent un passage. Ouais. La dernière fois, c'était sur...
Les envahisseurs.
Voilà, le tweet là, gros succès. Gros succès, parce qu'un potentiel de mème assez énorme, puisqu'en gros, elle tient une pancarte et on va pouvoir écrire pendant des années tas de choses
Déjà, j'ai déjà vu un faux avec « Voter Macron ».
Voilà, de tout, vous avez tout. Vous pouvez vous faire plaisir, aller sur les réseaux sociaux ce matin, tout le monde est dessus. Il y a ça, et puis du côté Macron, cette petite position un peu condescendante, un peu « je prends sur moi, mais vraiment, la pauvre fille, elle comprend rien », qui est aussi beaucoup réutilisée, mais moins de succès quand même que le tweet.
Alors justement, l'arrogance, c'est l'une des accusations qui a été faite et qui est faite ce matin contre. Et voilà, on le voit là. Alors c'est Jordan Bardella d'ailleurs qui dit ce matin arrogant et avachi. Bah justement,
ouais.
On va passer un extrait du débat hier soir. Il est question de la dette de 600 milliards que Emmanuel Macron porte dans son bilan et Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen de tout confondre. On regarde cet extrait.
Vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2/3 qui n'ont rien à voir avec le Covid.
Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen.
600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, Madame Le Pen, dont 2/3 n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette.
Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen.
Non, mais d'accord. Mais
arrêtez de tout confondre, c'est pas possible.
Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons.
Je vous donne pas de leçons.
Sur le financement de mon prochain.
Je connais le numéro par cœur, ne me faites pas, Madame Le Pen.
Sur le financement.
Je suis pas le seul à l'avoir repéré, ce passage.
Alors, c'est le aïe aïe aïe. Il est devenu légendaire, comme on dit. Et sur les réseaux, c'était l'autre passage très repris. Alors, évidemment, en cours et en boucle, et le aïe aïe aïe. Voilà, les gens ont
le
bien
finito.
Aimé.
Le finito.
On a Gérard Majax aussi, on a Henri Pollinet, avec un pic de recherche sur le mot ripolliné, parce qu'il est un peu daté, ce mot, on peut se le dire quand même. Donc la jeune génération a été sur Google pour chercher que veut dire ripolliné. Donc un pic de recherche sur Google Trends.
C'est incroyable.
Ouais, hein.
Mais vous avez l'impression que maintenant, en fait, on regarde ces débats avec son téléphone portable et on réagit, on lit. C'est incroyable, on regarde plus du tout les débats comme nous en 88 ou en 81. Quoi.
Vous le regardez plus pareil, on commente, enfin une espèce de canapé géant, tout le monde commente en même temps, et on a trois catégories finalement d'internautes qui regardent. Il y a les militants du candidat A, les militants du candidat B. Bon, on va dire que ceux-là reprennent les messages, c'est positif, et voilà. D'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, est celui qui a eu les militants les plus efficaces et les comptes les plus efficaces, en termes de volume en tout cas. Pas forcément d'engagement, mais de volume. Et puis après, vous avez monsieur et madame tout le monde qui commentent. Il y a des gens qui ont le sens de la formule et qui peuvent devenir extrêmement célèbres en une soirée avec un message qui a beaucoup fait rire. Mais globalement, oui, on regarde comme ça, avec du fond et de la forme quand même, parce que globalement, si on regarde, hier, les uns et les autres étaient d'accord pour dire que même s'il paraissait arrogant, sur le fond, c'était quand même lui. Par contre, sur la forme, c'était plutôt elle qui était saluée, même si on met de côté le fameux tweet.
Ce qu'on voit quand même, Axel, dans ce qu'on vient de passer comme extrait, c'est quand même qu'on imagine l'élève Emmanuel Macron, quand il était au collège ou au lycée, il devait être parfois un peu agaçant. Parce qu'on a quand même une attitude face à Marine Le Pen. Soi-disant, depuis quelques jours, on nous disait « faut surtout pas qu'il fasse le maître d'école. Surtout pas qu'il soit dans la leçon qu'il donnerait à Marine Le Pen. » C'est quand même clairement ce qu'il a fait à plusieurs moments. Et c'est vrai que presque plus que les mots, les phrases qu'il a employées, c'est l'attitude qu'il a pu avoir face à elle. Et effectivement, ça a été relevé. Je pense qu'au final, ça veut dire que les personnes qui le trouvaient arrogant, ça aura encore accru ce sentiment et cette attitude. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse bouger beaucoup de voix, effectivement.
Les gens qui le trouvent compétent continuent de le trouver compétent. Alexandra Schwarzbod, pourtant, bon, il me semble qu'il essaye de se contenir. Hein, et on sent qu'il en aurait plus sur la pédale en termes d'arrogance.
Oui.
Mais ça transparaît quand même, c'est ce que...
Oui, parce que tout le monde lui a dit. Tout le monde lui a dit de ne pas être arrogant, puisque ça a été un peu sa marque de fabrique pendant son quinquennat, son côté jupitérien. C'est ça qui a même d'ailleurs été la grosse tâche du début du quinquennat et qui font qu'à un moment, des gens sont sortis dans la rue, les gilets jaunes, etc., parce que ne supportant plus ce côté jupitérien, cette façon très verticale d'exercer le pouvoir. Et donc c'était sans doute la consigne que lui avaient donné ses conseillers, mais on voit bien que le naturel revient toujours au galop chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'empêcher, c'est vrai que parfois les plans de coupe justement montraient la façon dont il la regardait.
Heureusement qu'il y avait des plans de coupe.
Parlait. Oui, alors d'ailleurs ça m'a surpris parce que j'avais cru comprendre qu'ils avaient
demandé... C'est les plans d'écoute, non, les plans d'écoute, il y a eu un accord.
C'est les plans d'écoute, parce que les plans de coupe parfois étaient dévastateurs, c'est-à-dire qu'on voyait pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire qu'on voyait la façon dont lui l'a regardé en l'air de se dire « Mais vraiment, mais ça, c'est pas possible, un niveau pareil. » Et elle, quand elle le regardait, elle avait ce côté concentré. On sentait qu'elle avait peur. Elle avait peur parce que...
D'être collée ou de se retrouver en
situation...
Non,
mais je pense quand même qu'il y a 5 ans, le débat d'il y a 5 ans a dû être quand même extrêmement traumatisant.
Et il y avait le fantôme, là.
Il y avait le fantôme de ce débat, et malgré le fait qu'elle se prépare depuis 5 ans, on a suffisamment dit qu'elle se préparait depuis 5 ans à ce match retour, alors depuis 5 ans quotidiennement, et depuis 2 jours intensément avec quelqu'un qui la préparait. Et malgré tout, je pense que là aussi, le naturel est revenu au galop, cette espèce de peur viscérale de se retrouver face à cet homme qui a la maîtrise des chiffres, c'est ça. Il a la maîtrise des chiffres, il a la maîtrise des sujets qu'elle manifestement n'a pas. Elle a été plutôt bonne quand elle est allée sur le terrain, d'ailleurs, qui a fait son succès pendant cette campagne, c'est-à-dire quand elle a commencé à parler des gens abandonnés. Et ça, elle a essayé plusieurs fois de le remettre sur la table, ce côté, moi, je parle à ceux qui, dans les zones rurales, qui, dans les zones où il n'y a plus de train, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de médecins, qui se sentent abandonnés de Paris, de vous, de ce qu'il incarne, lui, c'est-à-dire l'élite politico-financière parisienne. Et là, elle était plutôt bonne, parce qu'elle savait, elle sait parler de ces gens-là, dont elle sait, en fait, elle elle se veut la défenseuse de ces gens-là. Et là, elle touchait un point juste que lui peine à être le représentant de ces gens qui se sentent abandonnés du pouvoir central.
D'ailleurs, elle a commencé par ça en disant « Vous vous gargarisez de vos statistiques, moi sur le terrain, ça n'est pas ce que me racontent les gens. »
Accès à la décharge de Marine Le Pen, un ministre me disait très tôt ce matin que ce que ça montre, c'est que c'est quand même très difficile de préparer un tel débat et d'être dans une compétence extrêmement forte, en fait, quand on est dans l'opposition. C'est-à-dire que le fait d'être encore plus, évidemment, à l'Élysée et au pouvoir, il me disait quotidiennement, vous êtes abreuvé de dizaines de notes. Ça vous semble un peu pénible, mais en fait, vous les intégrez, ça vous imprègne. Donc, pendant 5 ans, vous avez ça. Et donc, du tac au tac, vous êtes capable, effectivement, de ressortir un chiffre sans avoir formellement travaillé pendant 3 jours. Et que ce soit, finalement, Marine Le Pen, peut-être Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse qui se soient retrouvés face à Emmanuel Macron ou face à un président sortant, il est évidemment dans une situation de préparation qui est beaucoup plus difficile que le candidat face auquel il se retrouve.
Sur la forme, on parlait tout à l'heure des plans de coupe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, évidemment, votre débatteur cherche à vous mettre en difficulté. Donc, quand on parle à quelqu'un, on le regarde. Mais là, on sent bien qu'il y a une hostilité de la personne que vous regardez. Du coup, il regardait beaucoup les deux journalistes.
Il était pourtant à 4 mètres, hein, je peux vous dire. Je suis allé voir le plateau, il y a 4 mètres, ils n'étaient pas à côté.
Et c'était flagrant de la part d'Emmanuel Macron qui, cherchant un regard bienveillant, devait se tourner vers les journalistes. Est-ce que ça joue, ça aussi? Au fond, ce n'est pas des discussions, c'est du catch. Hein.
Il a fait ça, et puis même dans les termes, on sentit qu'à plusieurs reprises, il a employé le « nous », notamment sur le plan économique, en disant, comme message, en gros, nous quatre, entre guillemets, Marine Le Pen, vous, et les deux journalistes.
On n'a pas besoin de baisse de la TVA.
En gros, nous sommes des privilégiés, nous n'avons pas besoin de baisse de la TVA. Et effectivement, il y avait ce regard un petit peu fuyant. Mais on l'a vu aussi pour Marine Le Pen, dans la logique aussi où elle ne l'attaque pas frontalement dans les mots, elle ne semble pas l'attaquer non plus dans le regard. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'elle ne pousse pas l'offensive jusqu'à lui dire « regardez-moi dans les yeux ». Et on sent que finalement, cette brutalité, mais en tout cas cette force qu'elle aurait pu mettre en avant, on ne l'a pas vue hier soir avec ce sentiment, parfois quand même, peut-être pas de peur, mais d'hésitation, où on sent au bout d'une heure qu'elle se dit « effectivement, je suis dans une maîtrise, peut-être une maîtrise trop importante, trop en recul. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et elle se décide pas.
Ne pas attaquer Emmanuel Macron, mais parler de son programme, c'est ce qu'a cherché à faire hier Marine Le Pen. Donc face au problème du pouvoir d'achat, qui est le problème numéro un hein, des Français, eh bien, elle a notamment proposé, elle l'a dit hier, de réduire les taxes, la TVA, de 20 à 5,5 sur les carburants. On écoute ce passage de Marine Le Pen.
Je veux proposer de baisser de manière pérenne. Pas des chèques, pas des tickets de rationnement, de manière pérenne. La TVA sur l'énergie, l'ensemble de l'énergie, de 20 à 5,5%. Pourquoi ? Parce que je considère que l'énergie, c'est un bien de première nécessité. C'est-à-dire, je veux la baisser sur le carburant, sur le gaz, sur l'électricité, sur le fuel. Voilà véritablement une priorité absolue des 5 prochaines années, c'est restituer aux Français leur argent. Et l'ensemble de ces mesures permettra de leur rendre en moyenne 150 à 200 euros par mois et par foyer.
Alors, ce à quoi Emmanuel Macron, plusieurs fois, a dit très bien, mais comment on finance? Je propose d'écouter ce questionnement d'Emmanuel Macron. Alors là, en l'occurrence, c'était au sujet de la réforme des retraites. On écoute.
Vous n'expliquez jamais comment vous financez vos progrès. Vous n'êtes pas honnête avec les gens. Moi, j'explique. C'est pas agréable. Pour se faire élire, c'est plus simple de dire qu'on revient sur une réforme antérieure, ce que vous faites. Mais vous revenez sur un système qui n'est déjà pas équilibré. Donc, soit vous avez des impôts cachés, soit vous allez mettre en péril les pensions des retraités.
Alexandra Schwarzbrod, on disait beaucoup que finalement, cette élection, ça pourrait être un référendum pour ou contre la réforme à 60 ans ou à 65 ans, finalement. Il y a eu assez peu d'attaques là-dessus.
Oui.
Et ça vous a surpris ?
Non, parce que l'un et l'autre ont un peu aménagé leur position. On a bien vu que sur les retraites, Emmanuel Macron a compris un peu tard qu'il avait fait une grossière erreur en avançant, en mettant sur la table ce dossier de la retraite à 65 ans, qui est quelque chose qui rebute profondément les Français.
Oui, et 70% sont contre. Hein. Ah, oui, il n'y a que les retraités qui sont pour, parce qu'ils ne sont pas concernés.
Ben, absolument. Et donc, ça a été une erreur gravissime pour Emmanuel Macron. En revanche, elle, c'est vrai que son sa proposition de retraite entre 60 et 62 ans a plutôt séduit ceux qui étaient ceux qui plébiscitent de partir tôt à la retraite. Donc et en même temps, elle a un petit peu lui a semblé un peu revenir sur sa décision, l'aménager en disant que ça pouvait être plus tôt que 65 ans si on calculait lui et elle finalement c'est plus 60, ça peut être 62 ans. Enfin bref. On sentait bien que l'un et l'autre essayaient de revenir sur, d'adoucir leur position sur ce sujet.
Idem sur les questions du voile ou d'immigration. On s'attendait à ce qu'il y ait un moment
elle
fort.
Répond jamais à la question.
Oui, mais finalement, mais Emmanuel Macron cherche à peine à la piéger.
Pour y répondre.
Oui.
On sent que finalement, elle est presque. On se dit qu'elle va jamais répondre à la question quand nos deux confrères lui disent « Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression du voile dans la rue ?» Elle dit quasiment au début, mais en fait, c'est un problème. Enfin, elle dit pas ça comme ça, mais elle dit quasiment, c'est un problème secondaire. Et Léa Salamé et Gilles Boulot sont obligés de le relancer pour qu'elle dise, oui, j'interdirai le port du voile dans la rue. Mais c'est vrai que ça n'a pas donné lieu, y compris du côté d'Emmanuel Macron, à une passe d'armes politique peut-être attendue et qui resterait dans les annales du débat d'entre deux tours.
Le passage où il lui dit qu'il y aurait une guerre civile.
Oui.
Ça fait réagir. Ouais. Mais Alexandra Schwarzbrod, finalement, en 2017, Marine Le Pen était empreinte de radicalité, sortie de l'euro, les étrangers en prison dehors, etc. Emmanuel Macron portait la disruption, lui aussi. Là, on avait des deux côtés, c'est vrai, sur le fond, hein, je parle, des programmes beaucoup plus apaisés.
Mais oui, parce que lui a montré que finalement, pendant ce quinquennat, il n'était pas du tout le président de la disruption. On a bien vu que finalement, il a mené une politique assez classique, enfin qui ressemblait assez à la politique d'avant, au vieux monde. Et puis en plus, bon, politique qui a été, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces prises de plein fouet, toutes ces crises, à la fois, notamment la pandémie. Il est plus l'homme qui présente qu'il était en 2017, qui était l'homme de la nouveauté, d'une certaine façon différente de faire de la politique. Et elle, au contraire, si elle était là hier soir à ce débat, c'est parce que elle a essayé tout au long de ces 5 dernières années de lisser son image, de se dédiaboliser, et d'essayer de rassembler un plus grand nombre de Français, tout à fait consciente que son seul socle ne suffirait pas si elle voulait être élue présidente de la République. Et là, quel était l'enjeu hier soir de l'un et de l'autre? C'était de séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui représente quand même une réserve de voix immense. Et l'un et l'autre ont besoin de ces voix pour pouvoir être élus dimanche.
Alors justement, réaction de Jean-Luc Mélenchon. Quel gâchis, le pays méritait mieux. Guillaume Daret, quel gâchis, c'est une façon de les renvoyer dos à dos. Le pays méritait mieux, c'est une façon de dire.
Sous-entendu, j'aurais été bien.
Oh, si ça avait été moi.
Je pense que c'est clairement ça le message qu'il a tenté de faire passer. Moi, je trouve que les appels du pied des deux candidats, des deux finalistes aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'ils ont été moins forts hier soir qu'au cours des 10 premiers jours de cet entre-deux-tours. On avait vu Emmanuel Macron extrêmement présent sur le terrain social dès le lendemain du premier tour, effectivement, dire « Ah bah finalement, ce sera peut-être pas 65 ans, la retraite, ça pourrait être 64 ans, fin 2027 ». Ce grand discours où il a tout repeint en vert ce week-end, vous savez, à Marseille, sur l'écologie, reprenant même, je crois, le mot de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon. Je trouvais qu'hier, il y avait moins, si j'ose dire, d'appels de phare aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai que c'est ce que vous dites qui est vrai. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est plus le candidat de la nouveauté. Il joue lui-même le candidat, finalement, de la continuité. Et c'est ce qu'on a vu hier soir. Il n'est pas tellement sur le fond d'une cohérence générale de son projet. Il n'y a pas vraiment de projet de société en tant que tel. Finalement, il défend ce qu'il a fait. Il joue de sa stature présidentielle et de sa stature internationale. Et finalement, message, ce n'est pas tellement « élisez-moi pour ce que je ferai », c'est plutôt « élisez-moi parce que je sais faire ». C'est un peu ce qu'il a cherché à mettre en avant hier soir et ce qu'on a vu assez clairement, je trouve.
« Élisez-moi parce que je sais faire ».
Mais c'est exactement ça. Et c'est ça qui a manqué à ce débat. C'est qu'il a manqué du souffle, une vision.
Un projet.
Un projet. On sentait que chacun était arc-bouté, était surtout convaincu de la nécessité de ne pas se planter, de ne pas rater ce débat.
D'ailleurs, on ne va pas se cacher, hein. Y en a qui sont endormis hier soir. Est-ce que l'intensité a baissé à partir d'une certaine heure?
Un peu. un peu. C'est surtout, en fait, ce qu'on pouvait lire, c'est que pour les mélenchonistes qui s'expriment beaucoup sur les réseaux, ouais. c'est que globalement, ça ne change à rien. Pour ceux qui exitaient, ça ne les a pas aidés plus que ça à choisir. En tout cas, ça les a confortés dans le fait que soit ils n'iraient pas voter, soit ils voteraient blanc pour beaucoup d'entre eux. Et globalement, c'est pas tant que ça manquait de souffle pour eux, mais ils n'ont pas trouvé d'éléments pour se décider, sachant qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui regardaient, qui n'avaient envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre. D'ailleurs, c'était une des consignes les plus partagées hier, ni Le Pen ni Macron. Mais en même temps, il faut choisir. Et à la fin, finalement, c'est effectivement bon. Pourquoi changer en soi? Il a peut-être quand même plus rassuré, même s'il a un peu énervé. Donc,
alors, voilà. Après les réactions sur les réseaux sociaux, je vous propose tout simplement d'écouter des réactions qui ont été recueillies ce matin dans les rues de Paris, donc de téléspectateurs qui ont regardé le débat. On écoute quelques réactions.
Ce n'était pas un débat, c'était une exposition d'avis, de programmes, et pas un débat.
Comment ça ?
C'est pas ça un débat. C'est quand on se pose des questions, on prend le temps d'y répondre.
Monsieur Macron, il est beaucoup plus convaincant que Madame Le Pen. D'ailleurs, sur tous les sujets, sur toutes les questions, que ce soit l'économie, que ce soit la politique extérieure.
Je n'étais pas indécise, je savais pour qui voter. Mais là, maintenant, ça m'a mis le doute sur le candidat ou la candidate à élire. Là, je ne sais plus. Je suis un petit peu perdue. Mais effectivement, je savais pour qui voter. Et là, je ne sais plus trop.
Bon, ça, c'est curieux. On aurait en manière d'en savoir plus sur son hésitation. Vous le faisiez remarquer, 15 600 000 téléspectateurs.
On sait il y a quelques instants par l'Agence France.
C'est moins que...
C'est un petit peu moins qu'en 2017. On attend de voir les audiences des chaînes infos qui retransmettaient aussi le même programme, évidemment, pour voir combien ça fera. Mais ça montre quand même... Et en 2017, on était déjà... Moins de téléspectateurs qu'en 2012 et qu'en 2007.
Alors, pas trop d'aspérité sur les questions de la retraite, sur les questions d'immigration. En revanche, il y avait quand même le boulevard sur la question de la politique étrangère, sur la question russe. Et là, Emmanuel Macron ne s'est pas privé d'attaquer Marine Le Pen sur ses relations financières même, avec des proches du pouvoir de Vladimir Poutine. On écoute cet extrait.
Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
Alors peut-être que
c'est aussi ce qui fait que, on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Ni vous ni vos représentants. Et ça n'est pas un hasard si, il y a 5 ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser. Et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet, parce que vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe.
Alors, ce à quoi Alexandra Schwarzbrod, Marine Le Pen répond, oui, mais moi, aucune banque française ne veut me prêter. J'ai bien dû trouver l'argent à l'étranger.
Oui, alors ça, c'est l'argument que rétorquent tous ses proches. Mais objectivement, Emmanuel Macron a raison. Objectivement, il a raison, puisque pour sa dernière... Pas pour cette campagne-ci. Hein, cette campagne-ci, Marine Le Pen a emprunté à une banque hongroise, mais qui est détenue par des proches de Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui dirige une démocratie illibérale, comme on les appelle. Mais pour l'avant-dernière campagne, Marine Le Pen a emprunté, s'est endettée auprès des Russes.
En 2015, oui.
Voilà, en 2015. Elle continue de rembourser. Ça veut dire que si elle est élue présidente de la République, il y aura en France un leader qui devra de l'argent à Vladimir Poutine. Dans le contexte actuel, ça paraît inimaginable. Donc Emmanuel Macron a eu raison de souligner ce point-là, parce que c'est quand même un point, quand on pense à la guerre qui se joue en ce moment en Europe... On ne peut pas imaginer que
le président ait un conflit d'intérêts avec...
Mais non, parce que ça veut dire que Vladimir Poutine tiendra la France entre ses mains. Enfin, qu'il aura un vrai levier pour lui faire faire, je ne sais pas, enfin pour l'utiliser. Donc, c'est vraiment un point très important quand même, une tâche vraiment sur Marine Le Pen. Alors évidemment, elle ne l'avait pas prévu, puisque la guerre en Ukraine... Ukraine. Vladimir Poutine a lancé la guerre en Ukraine le 24 février, donc la campagne était lancée depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, une vraie tâche sur le programme de la candidature de Marine Le Pen.
Guillaume Daré, on disait jusqu'à présent qu'elle avait bien réussi à éviter ce sujet hein, de sa proximité ancienne avec Vladimir Poutine, même si hier, Emmanuel Macron, à part cette question du financement, n'a pas non plus tellement cherché à pousser son avantage sur cette question, cette guerre en Ukraine.
Elle réussit moins à l'éviter désormais bah, parce qu'il n'y a plus le paratonnerre Éric Zemmour depuis le premier tour. Ensuite, c'est vrai qu'Emmanuel Macron va sur cette question du prêt. Il aurait pu peut-être davantage aller sur la question des valeurs aussi, valeurs politiques. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Moi, ce qui me marque quand on voit les images, c'est que, bizarrement, elle a l'air presque étonnée qu'il tape aussi fort. C'est-à-dire qu'on la voit un petit peu chanceler et se dire presque, on a l'impression dans sa tête qu'elle se dit « c'est pas vrai, il y va ». Alors que, finalement, lui, ça fait assez professionnel. On sent qu'évidemment, il a préparé ça, qu'il arrive, qu'il sort son argument, qu'il l'attaque, mais qu'elle... elle est un petit peu désarçonnée. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti.
Elle est dans les cordes. Hein. Elle dit, personne ne voulait me prêter. J'ai dû aller voir un oligarque, un mafieux presque.
Évidemment, un argument qui était attendu par tout le monde. On savait qu'Emmanuel Macron, sans trahir le secret des dieux, allait aller sur cette question, évidemment, de la Russie et des liens avec cette banque russe de la part du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Et c'est vrai que c'est là où on se dit... qu'elle n'avait pas, sur le plan du caractère, hier soir, cette capacité de rebond politique face à Emmanuel Macron.
Elle n'a pas cherché à contre-attaquer, elle a pris les coups.
Y compris dans la façon dont elle parle de la banque de la démocratie. Elle aurait pu, même si évidemment c'est un argument politique, dire plus fortement encore, même si elle le dit. Pourquoi est-ce que je dois aller me financer à l'étranger? Je vous le réexplique. Elle le dit, mais ça passe presque, finalement, au travers... On n'a pas senti quelqu'un d'une combativité absolue hier soir.
Vous étiez dans les loges. Vous avez pu accéder aux loges. Comment l'entourage de Marine Le Pen suit ce débat? Et à ce moment-là, il se dit, allez, il se dit dans sa tête, mais dis ça, cogne. Comment ça se passe?
Je suis désolé, je vais vous décevoir, Axel.
On n'a pas le droit.
Accès aux loges. Donc on les a vus un petit peu avant. Ils sont redescendus 5 minutes à peu près après. Mais la réaction d'ailleurs de Marine Le Pen à l'issue du débat est assez signifiante aussi, parce que quand bien même elle dit Emmanuel Macron s'est montré agressif, elle dit aussi qu'elle est extrêmement satisfaite de la façon dont ça s'est passé et que ça a été un débat de bonne tenue. Ce qui renforce l'idée que finalement, son idée première et son objectif, c'était pas de sortie de route et que finalement, c'est ce qu'elle a tenu.
Le bonne tenue, c'est ce qui ressortait.
C'est ça.
Mais le bonne tenue ne fait pas prendre une décision, quoi. Globalement, les gens.
Absolument.
Voilà. Après, si le passage, quand même, sur.
La banque russe.
Sur la banque russe a été plutôt beaucoup commenté.
Ouais.
Il y avait effectivement en amont plein de gens qui se posaient la question, est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas? D'ailleurs, sur Libé, vous aviez fait un bingo avec les cases à cocher. Dedans, il y avait ce sujet-là et il y avait plein de gens qui se posaient la question, est-ce qu'il va oser y aller? Il y avait aussi d'ailleurs la question sur McKinsey, est-ce qu'il va oser, est-ce qu'elle va,
elle y est pas allée?
Elle a fait une petite phrase au détour d'un truc qui, en plus, lui a permis de lui aussi de botter en touche. Enfin, voilà. Et en fait, il y avait un peu de regret. C'est pas tant que les gens voulaient du sang, mais ils avaient envie quand même de confrontation et de plus de discussion. Et il y avait un peu de regret des deux côtés, sachant que l'argument sur... quand vous parlez à M. Poutine, vous parlez à votre banquier, est une formule que les gens ont repris, mais en disant que, dans le fond... L'argument qu'elle utilise du prêt, c'est en 2014, fonctionne
plutôt bien.
Plutôt bien. Et puis surtout, de nouveau, ce n'était pas une surprise. La surprise était plutôt, est-ce qu'ils vont aborder ces sujets? Mais dans le fond, chacun savait qu'elle aurait ce sujet-là à gérer, qu'il aurait sans doute McKinsey. Et il n'y avait pas de surprise. C'était la déception qu'on pouvait lire dans les messages était que les uns et les autres pensaient que la façon dont ils géreraient leurs réponses pourrait les aider à prendre une décision. Et il n'y a pas eu.
Et il n'y a pas eu non plus de punchline, comme on dit. Il n'y a pas eu d'anaphore, le moi président. Il y en a quand même une. Ça sentait la préparation, mais Marine Le Pen a réussi à le placer. Ouais. C'est bien sûr, vous êtes un président climato-hypocrite. Ouais. On écoute ce passage, cette formule choc qui a sûrement été préparée en amont.
Là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique?
Je ne suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là.
Bon, Alexandra Schwarzbott, ça, c'est typiquement, ça a été préparé, c'est un truc de communicant.
Oui.
Ça se voit un peu trop, d'ailleurs.
Oui, non. Mais c'est-à-dire qu'on savait tous, les entourages avaient distillé depuis quelques jours le fait que chacun cherchait la phrase que tout le monde retiendrait de ce débat. Donc on imagine bien que celle-ci en faisait partie, puisqu'on savait qu'ils allaient aborder le sujet de l'écologie, qui est un sujet clé et que beaucoup réclament, notamment au sein de la jeunesse, et pas seulement, parce que ça intéresse tout le monde. Ça me fait mal, mais objectivement, elle n'a pas tout à fait tort sur ce sujet-là. Hein. C'est vrai que Emmanuel Macron, en matière écologique, n'a pas brillé par sa performance. Hein. Il a esquissé des choses, mais il n'a pas été à la hauteur.
Qu'a-t-elle faire sur l'écologie punitive? Vous empêchez les gens de rouler, d'accéder au centre-ville, vous les empêchez de garder leur centrale au fioul sans leur proposer d'alternative.
Ça parle à tous ceux qui vivent loin de Paris, qui ont besoin de leur voiture pour bosser et qui en effet ont du mal à se projeter dans l'avenir, hein, qui est celui qui intéresse justement tous ceux qui s'intéressent au climat. Moi, je suis surprise que justement lui, par exemple, n'ait pas rebondi à un moment quand elle lui a dit qu'il fallait du temps, elle lui a dit qu'elle était pour la transition, mais une transition lente. Or, et là, je suis surprise qu'il ne lui ait pas rétorqué. Mais attendez, regardez ce que les scientifiques, experts ont dit. Et on n'a plus que 3 ans. Comment voulez-vous faire une transition progressive? Ce n'est pas possible. On ne peut plus se le permettre. Il ne l'a pas fait. C'est très étonnant.
Il a parlé du GIEC. Il a parlé du rapport du GIEC. Mais Véronique Reissoult, on s'est demandé si cette élection ne serait pas un référendum pour ou contre la retraite à 60 ou à 65 ans. Est-ce que on s'est pas demandé aussi? On sait que les éoliennes, c'est un sujet très clivant. Le fait que Marine Le Pen, dans son programme, il y a, alors elle l'a moins dit hier, mais enfin quand même, il y a le démantèlement progressif des éoliennes. Est-ce que ça, c'est pas un argument qui peut faire qu'il y ait des gens qui, pour ce point précis, parce qu'ils ne supportent pas l'éolienne, qui leur bouche la vue, votent pour elle?
Oui, clairement, mais c'est pas hier, lors du débat, que c'est sorti.
Ouais, c'est
mais
vrai.
Oui, vraiment, ce que les gens ont retenu hier, c'est plutôt la blagounette sur le touquet, quoi.
Mais, ah oui, voilà. Il y a les éoliennes, vous allez en mettre partout, sauf devant le touquet.
Sauf le truc, et après elle a dit, ah mais non, j'ai dit ça par hasard, enfin bref. Voilà, mais de nouveau, en fait, tous les arguments qui font qu'on vote pour elle ou pour lui, étaient des arguments qui étaient là avant, et il ne s'est rien passé d'incroyable hier. Il n'y a pas des gens qui ont eu une révélation en disant mais oui, les éoliennes, bon sang, mais c'est bien sûr, je ne savais pas. Donc voilà, c'est plus des commentaires sur la forme. Là où on pourrait dire qu'il y a quand même un petit avantage pour lui par rapport à Marine Le Pen, c'est que bon, on dit ok, elle s'est pas effondrée, c'était pas mal, qu'il faisait plus crédible, plus sérieux, et donc c'est le fameux bon, est-ce que c'est vraiment intelligent de changer quand on voit la réalité de qui elle est en face. C'est plutôt ça. Pour ceux qui hésitaient, hein, parce que les autres...
C'était donc le deuxième débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et à 23h17, écoutez bien cet échange, pour ceux qui l'ont raté, qui étaient endormis. Comme un vieux couple,
ils se sont auto-congratulés.
Il y a eu un échange de complicité. On les a imaginés partir en vacances tous les deux, presque, on s'est demandé. Écoutez-les, vous allez voir, les deux vont se faire les amabilités. Ils vont jouer au vieux couple qui ont traversé ensemble des galères. On écoute ce moment de complicité entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Puisque le temps
presse.
On est
beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen.
Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit.
Je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame.
Bien, une question sur.
Mais non, Marine, tu n'as pas changé. C'est moi qui ai vieilli. Comment avez-vous vécu ça? Évidemment, vous êtes dit, bon, c'est bien, il y a moins d'agressivité.
Mais vous avez vu, c'est pas seulement à la fin qu'Emmanuel Macron lui a fait des amabilités, au début du débat.
Oui,
et d'ailleurs, c'était un peu surprenant, parce qu'on se dit, mais pourquoi il n'arrête pas de lui dire qu'elle a raison?
Je suis d'accord avec vous.
Voilà, il n'arrêtait pas de glisser vous avez parfaitement raison, Madame Le Pen, sur ce point-là, vous avez raison. Et donc, ça, c'était aussi une façon de préparer le terrain, de l'anesthésier, pour ainsi
mais
dire.
Mais elle aussi, d'ailleurs, elle lui répond plusieurs fois, oui,
voilà,
elle a raison.
On voit bien que chacun voulait éviter, donc on y revient toujours, le drame de la fois d'avant. Et là, ils voulaient paraître l'un et l'autre respectueux de l'autre. Ils ne voulaient pas que ce débat se termine avec la sensation dans les foyers que l'un avait voulu tuer l'autre. Et donc, ils voulaient... Évidemment, leur but, c'est de rassembler le plus possible. Ils ont besoin d'un maximum de voix dimanche soir. Donc, ils ne peuvent se permettre de s'aliéner aucun électeur. Aucun.
Oui. Moi, je trouve que ça trahit quand même une chose. C'est que ça montre quand même, même s'il dit l'inverse, qu'Emmanuel Macron a tout fait pendant 5 ans quand même pour se choisir comme adversaire hier soir, la même adversaire qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que quand même, on voit bien que cette volonté de bâtir un clivage, dit-il, entre progressistes et nationalistes, il continue de l'entretenir avec, quelque part, ses amabilités pour faire d'elle quasiment son unique adversaire politique et dire finalement, il y a vous, votre camp, et moi, je suis le camp républicain face à vous.
Là où j'abonde dans votre sens, c'est quand on fait, alors je ne peux pas vous le montrer, mais une cartographie de qui s'est le plus exprimé hier, donc vous avez à peu près ex aequo Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et peu de liens ensemble, mais vous avez une petite sphère sur Jean-Luc Mélenchon, qui était assez importante, parce qu'il n'était pas là hier, donc il n'y avait pas de raison qu'il apparaisse autant que ça. Et à chaque fois, c'était « Ah ben oui, mais ça aurait dû être lui, le débat n'aurait pas été le même. Ah ben en fait, ils avaient bien... » Enfin, et Macron et Le Pen avaient besoin l'un de l'autre, et il était le perturbateur. Et c'était étonnant de voir, il y avait les messages qui émanaient de lui, bien sûr, mais surtout de beaucoup de gens autour qui étaient en train de dire « Ah ben voilà, en fait, on nous a quand même volé un vrai débat, ah ben on nous a volé une vraie discussion. »
Mais à vous écouter, ce débat ne changera pas l'issue, il ne s'est rien passé qui pourrait changer le cours de cet entre-deux-tours. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu prendre davantage de risques? C'est vrai qu'en 2017, c'était beaucoup plus confrontation. On va regarder un petit extrait, alors c'est le contraire de l'extrait qu'on vient de voir. Il n'y a pas du tout de complicité. Il y a même Marine Le Pen qui sème le doute sur le fait qu'Emmanuel Macron a peut-être un compte offshore caché aux Bahamas. Elle le dit, elle sème le doute à quelques jours du second tour. On écoute cet extrait alors qui date d'il y a 5 ans, 2017.
Vous savez, bref, le parti des affaires, ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien.
Le parti des affaires, c'est le mien. Soyez,
c'est la réalité.
Faites attention à ce que vous dites, monsieur Macron.
C'est la réalité, madame Le Pen.
J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je ne sais pas, j'en sais rien.
Non, madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. C'est la grande différence qu'il y a entre vous et moi.
Votre réponse,
vous avez des affaires.
C'est là pour ça que ça a été fait, je pense.
Moi, je n'en ai pas, madame Le Pen.
C'est probablement pour ça.
Donc, de revoir ces images, on voit qu'ils ont vieilli, il y a beaucoup plus de confrontations.
Paradoxalement, il y avait peut-être des excès, mais quand on voit ça, on se dit. Elle pouvait quand même être plus offensive hier soir.
Oui. Hier, c'est ce que les gens lui reprochent le plus, et sur, dans son camp en particulier.
Elle était allée dans l'excès il y a 5 ans, mais on voit quand même qu'il y avait eu un vrai affrontement politique, et c'est ce qu'on n'a pas vu chez elle hier soir.
Alors, les sondages ne plaident pas en sa faveur. Néanmoins, il peut toujours se passer quelque chose. On se souvient en 2002 comment l'irruption d'un Papivoise fait que la question de la sécurité s'est invitée dans le vote des Français et que Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour, laminant Lionel Jospin. On est d'ailleurs aujourd'hui le 21 avril, c'était il y a pile 20 ans. On aurait pu vous passer l'extrait, mais on a passé un autre extrait. Et si elle gagnait? Alors, difficile, il n'y a pas d'archives. Mais je vous propose de voir c'est une victoire du Rassemblement National. C'est Louis Alliot qui, à la surprise générale, nous sommes... nous sommes le 28 juin 2020. Il est élu maire de Perpignan. Et vous allez voir, c'est amusant d'imaginer un parallèle avec une éventuelle victoire de Marine Le Pen. Vous allez voir comment réagit Louis Alliot. Eh bien, il est tout en gravité et il a même peur de ce qu'il est en train de lui arriver. Regardez ce sujet sur cette victoire. C'est la première fois que le Rassemblement National emporte une mairie de plus de 100 000 habitants. Et donc, il y a une gravité qui se saisit de Louis Alliot. On regarde.
Concentré, Louis Alliot endosse le costume du vainqueur et enchaîne les interviews dans une permanence peuplée de bien plus de journalistes que de militants.
Le premier message ce soir de Perpignan, c'est que ce front dit républicain est tombé.
53% des voix, un score inattendu pour le député du Rassemblement National. Il le découvre entouré de sa garde rapprochée peu avant 20h. Pas d'effusion de joie, il reste incroyablement serein.
Le plus dur reste à faire, hein. Mais au moins ça c'est fait. Et si vous me dire que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de stress, beaucoup de tout. Ça prouve qu'il y avait deux choses, des gens qui ont adhéré à mon projet et des gens qui ne voulaient plus voir ce système en place. Au-delà de la personnalité du maire sortant, Ils ne voulaient plus voir ce système.
Pas de triomphalisme chez Louis Alliot. Quelques félicitations furtives, l'émotion de son père, la joie de ses colistiers et de sa compagne. À quelques mètres de là, le calme règne à l'hôtel de ville. Jean-Marc Pujol se fait attendre. Les résultats s'annonçaient serrés, mais sa défaite est implacable, avec un peu moins de 47% des suffrages.
Je suis dans une défaite claire, à 1500 voix d'écart. Je peux dire que dommage qu'on n'ait pas réussi. Quand on voit aujourd'hui se porter vers les candidats de l'extrême droite des voix, eh bien je dis que notre démocratie est malade. En revanche, je respecte le vote de ceux qui considèrent qu'on peut changer les choses différemment, même si je ne le crois pas.
Une centaine de militants de gauche ont clamé en fin de soirée leur rejet de l'extrême droite, qui vient donc de remporter la mairie après 30 ans d'implantation locale. Avec l'élection de Louis Alliot, une page se tourne à Perpignan. Depuis 61 ans, aucun candidat n'était parvenu à battre l'équipe sortante.
Alexandra Schwarzbord envoie un Louis Alliot qui a peur, qui n'est pas du tout dans le triomphalisme, qui a peur des responsabilités qui sont en train de lui tomber dessus, comme si l'ADN de ce parti, c'était d'être dans la contestation et pas dans l'exercice du pouvoir. C'est au fond d'elle-même, Marine Le Pen, il y a ça.
Ah ben oui, il y a même plus grave que ça. C'est que, imaginons qu'elle soit, que lundi matin, on se réveille avec Marine Le Pen présidente, et après, quoi avec qui gouverner? Quels hommes, quelles femmes? Il y en a assez peu. Hein. Qui pour composer son gouvernement? Certains médias se sont amusés à imaginer qui pourrait devenir ministre de la Défense, Premier ministre, etc. Ça fait un peu peur, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de personnes très qualifiées dans son entourage pour composer un gouvernement. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu seule. Alors en plus, beaucoup de ses proches sont partis pour rejoindre Éric Zemmour. Elle a suffisamment dit qu'elle ne voudrait pas d'Éric Zemmour au gouvernement si elle était élue, ni de ses proches. Donc ça en élimine un paquet. Et donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui se prépare depuis 5 ans et finalement qui aujourd'hui ne semble pas s'y préparer que ça. On l'a vu hier soir dans ce débat et ça se verrait très certainement, si elle était élue, ça se verrait très très vite.
Guillaume Daret, dimanche soir 20h, les résultats tomberont. C'est la victoire ou la fin pour Marine Le Pen? Est-ce qu'on peut dire qu'elle joue à qui tout double?
En tout cas, on ne l'entend plus dire ce qu'on l'entendait dire parfois il y a quelques mois, qui était de dire que ce serait peut-être fini, ou en tout cas que c'était une dernière candidature à l'élection présidentielle. Ça dépendra beaucoup du résultat quand même. Si elle fait 45% des voix, elle peut se poser en leader de l'opposition. Alors bien sûr, il y a les législatives, un scrutin qui est extrêmement compliqué pour sa formation politique. Mais on sait que la droite va exploser parce qu'une partie va rejoindre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Que fera l'autre partie? Est-ce qu'elle pourrait constituer autour d'elle un vaste mouvement, finalement, à l'image de ce qu'Éric Zemmour fait, mais avec la force d'avoir été celle qui a réalisé 45% au second tour face au président sortant? Je pense qu'il ne faut pas exclure qu'elle ait envie de poursuivre. Et puis quand même, elle a, ce qu'on le disait, acquis une nouvelle image, quand bien même hier soir, elle n'a pas convaincu par sa combativité. Moi, je trouve qu'elle n'a pas, en tout cas, paru incompétente hier soir. Et certains membres de son entourage, en tout cas, trouvent que c'est déjà un progrès considérable.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait deux candidats à cette campagne, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient dit « c'est la dernière, c'est la dernière des dernières ». On voit bien que Jean-Luc Mélenchon n'a aucune envie de décrocher.
Il veut qu'on l'élise Premier ministre.
Voilà, il n'a aucune envie de décrocher. Il veut capitaliser, et on le comprend d'ailleurs, hein, il a objectivement fait un bon score, il veut capitaliser sur ce bon score. Et Marine Le Pen, quand on voit d'où elle est partie, donc après la dernière présidentielle, c'est vrai qu'elle a quand même considérablement rattrapé son échec d'il y a 5 ans. Et donc, vu le score qu'elle va avoir, ça paraît difficile de l'imaginer décrocher, elle aussi, de la politique.
Elle a énormément changé l'image, du Rassemblement national et deux, son image.
Oui, et ce qui était intéressant, c'est que depuis 2017, depuis ce fameux débat, quand vous allez sur les forums où s'expriment les militants du Rassemblement national, ils avaient du mal à gérer cette histoire, ils ne l'avaient pas digérée. Là, hier, les commentaires étaient plutôt positifs. Bon, eux, ils l'ont trouvée très compétente. Mais surtout, même ils ont regretté qu'elle ne soit pas plus agressive, il n'y a pas de phrase disant « Bon, maintenant, même si elle perd, elle doit partir. » En fait, ils sont derrière elle. Ils trouvent qu'elle a largement rattrapé, qu'elle n'a pas été ridicule hier, loin de là, elle aurait sans doute pu aller un peu plus loin. En tout cas, c'est ce qu'ils attendaient. Et puis, ils voulaient des phrases, parce que c'est plus facile quand vous êtes militant de porter une phrase forte que... un consensus, mais il n'y a pas Marine doit partir. Il y a plutôt nous tenons une leader aujourd'hui.
C'est vrai que l'agressivité, elle est plutôt dans son entourage, la Jordan Bardella, qui parle de Macron comme l'insulteur public numéro un suite à ce débat d'hier.
Ouais. Avec elle, ça sera quand même compliqué pour Éric Zemmour, qui disait au début de la campagne, de toute façon, Marine Le Pen, elle ne gagnera jamais. Alors peut-être que ça se confirmera dimanche soir. Ce sera quand même compliqué pour lui d'expliquer au moins dans un premier temps que tout doit se reconstituer autour de lui, alors que lui a fait 7% au premier tour, et que, quand bien même Marine Le Pen perdrait dimanche, elle serait moins crédible que lui en faisant 45, 46, 46% au second tour de l'élection présidentielle.
En fait, si je vous ai bien compris hier, elle n'a pas gagné, mais elle n'a pas perdu, contrairement à 2017.
Voilà. C'est un peu le sentiment
qu'on a eu
à son départ du débat, un petit peu, finalement, c'est ça qu'elle était venue chercher.
Donc finalement, ce débat n'a servi à rien. On voulait le dire qu'en fin d'émission, parce que sinon, on ne va pas commencer une émission en disant ça.
Mais les gens hier disaient, le premier était raté, le deuxième un peu mieux, le troisième, donc ça répond à votre question.
Bon, vous avez trouvé une utilité quand même ce débat d'abord.
Non, mais honnêtement, ça a quand même permis, là où certains l'ont trouvé un peu pénible, moi je trouve qu'il y a quand même, chacun a quand même pu exposer ses arguments sur le pouvoir d'achat. On le disait tout à l'heure, la prime, le salaire, sur la situation internationale. Et c'était quand même utile d'avoir 2h45. Vive la politique, comme disait l'autre.
Voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info, c'est clair. Bonne journée, à demain.